Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et en ce 23 novembre, on célèbre le 35e anniversaire de la mort d'André Malraux, le 23 novembre 1976. Franck Ferrand a eu envie de lui consacrer une émission sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Ce 35e anniversaire de la mort de Malraux suit de seulement 3 semaines le 110e anniversaire de sa naissance. C'est un des plus fascinants personnages du dernier siècle, en plus d'en être un des plus grands auteurs, que je vous propose donc de redécouvrir aujourd'hui.
Alors si vous avez des détails à nous demander ou à nous raconter sur André Malraux, c'est donc le moment de nous contacter via le site internet d'Europe 1.
Oui, nous essaierons de vous répondre en compagnie d'un de ses biographes les plus récents, Alexandre Duval-Stalla. Et en attendant, je vous propose de faire un petit saut de 35 ans, plutôt de 36 en vérité, en arrière. Déjà, nous sommes à Verrières-le-Buisson, dans le célèbre salon bleu laissé intact depuis la mort 6 ans plus tôt de Louise de Villemorin, l'ami du grand homme. Il est là, bien calé, dans son petit fauteuil à franges. Il nous attend.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Un moraliste de l'événement. Ainsi, le général de Gaulle a-t-il défini une fois pour toutes, me semble-t-il, le génial et complexe André Malraux. À quoi l'intéressé répondait en effet « Pour moi, la politique n'a jamais existé. Ce qui existe, ce qui vit, ce qui avance, c'est l'histoire ». Le ministre des Affaires culturelles du général, grand aventurier et surtout grand écrivain, immortel auteur de La Condition humaine, qui a eu le prix Goncourt en 1933, et de La Voix royale, qui entre nous est peut-être mon roman préféré, ce grand homme demeure un des personnages les plus énigmatiques du XXe siècle français. Tout juste un an avant sa mort, alors qu'il est devenu à l'évidence le plus grand écrivain français encore en vie, le chroniqueur littéraire Yves Salgue qui avait été l'ami de Gide, d'Aragon, de Breton, Salgue rend visite à André Malraux chez lui ou, si l'on préfère, chez Louise de Villemorin, qui avant de s'éteindre avait fait promettre à son compagnon qu'il continuerait de résider après sa mort chez elle, à Verrières-le-Buisson. Eh bien, j'ai retrouvé, en préparant cette émission, le compte-rendu qu'Yves Salgue, en novembre 1975, donc, a donné de sa longue et belle conversation avec Malraux, une conversation qui devait prendre des allures de testament. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse partager ce moment-là. Même après son départ de la rue de Valois, il faut dire quand même qu'il avait été 10 ans ministre d'État du général de Gaulle et qu'il avait souhaité se retirer des affaires en même temps que lui, eh bien, même après son retour à la vie civile, Malraux continue à porter des costumes de ville et la cravate et la pochette, même si c'est pour rester à la campagne au milieu des souvenirs de Louise. C'est donc en tenue de ministre, si je puis dire, qu'il reçoit son interlocuteur. Yves Salgue se plaît à remarquer que sur le front très haut, cette espèce de front interminable de Malraux, la célèbre mèche rebelle a disparu et qu'elle a fait place à de petites rides régulières. Les tics nerveux qui affectaient ses traits sont restés eux aussi à Paris, mais le regard est toujours aussi présent, habité, scrutateur. Malraux, écrit Salgue, a l'air installé et à l'aise dans ce 21e siècle qui le hante, associé à l'idée de la mort, à l'idée de la survie de l'homme, à l'idée de son prolongement par son œuvre et à la durée de celle-ci. Ce jour-là, André Malraux revient du Japon, où il s'est rendu en voyage avec Sophie de Villemorin, la nièce de Louise, et qui maintenant partage sa vie. Sophie de Villemorin est décédée il y a 2 ans, c'était en décembre 2009. L'ancien ministre d'État s'est rendu au Japon en mission officielle, délégué par le gouvernement de transition constitué à la mort de Georges Pompidou. Et le but de ce voyage, de ce déplacement à travers le Japon, c'était d'accompagner la Joconde. « Jamais vu ça, » dit Malraux. « 35 000 visiteurs quotidiens dans un recueillement de pèlerinage. Les Japonaises identifient Mona Lisa au mythe éternel de la femme. » Entre parenthèses, ceux d'entre vous qui ont écouté il y a 10 jours notre émission avec Sophie Herford doivent sourire en entendant ça.
Le jocon.
Le jocon. Malraux poursuit. Les Japonaises se sentent solidaires, complices en la Joconde et flattées. Les foules d'Extrême-Orient, il sait de quoi il parle, l'Extrême-Orient, il connaît Malraux. Ces foules réagissent au quart de tour dès qu'il s'agit d'un message occidental, surtout s'il leur est proposé sous la forme sacro-sainte d'une œuvre d'art. Les hôtesses d'accueil de Tokyo, les étudiantes, les infirmières... La culture là-bas relève d'un phénomène de coquetterie sociale, elles en acquièrent les éléments comme une dot. Les Japonaises attendaient comme une fête cet éternel féminin selon Léonard. Faut imaginer le salon bleu baignant dans une pénombre propice aux confidences. L'un des chats du maître, Moïse, c'est un angora gris-argenté, vient de sauter sur ses genoux et de se pelotonner. « Pas de chat au Japon, soupire Malraux. Plus un chat. Ils n'auront bientôt plus qu'un recours, l'état sauvage. Le chat est de tous les animaux domestiques celui qui supporte le moins pollution et nuisance. Dans 10 ans, le Japon n'aura même plus un oiseau dans ses jardins publics. » En vérité, ce voyage doux amer au Japon n'est pas le premier qu'André Malraux a effectué en compagnie de Sophie de Villemorin. Elle l'a accompagné déjà en Inde, au Népal, elle le suivra encore en Haïti et ce sera son dernier grand déplacement. Surtout, c'est elle qui, à ses côtés, a fait le fameux voyage jusqu'au Bangladesh, la dernière grande cause dont Malraux se soit mêlé. En 1971, et je suis sûr que certains d'entre vous s'en souviennent, Malraux a renoué en effet avec ses engagements de jeunesse et il a pris hautement le parti de l'indépendance du Bengale oriental, indépendance à l'époque arrachée au Pakistan, dont cette région était devenue une province en 1947. Cette prise de position, André Malraux l'avait faite sur Europe 1, on disait à l'époque sur Europe numéro 1, au micro de Jean-François Luciani. Eh bien, nous avons retrouvé ce document sans trop de peine, je vous le concède, et je vous propose maintenant de l'écouter.
On ne peut aider sérieusement le Bengale en parlant pour lui que si on se bat pour lui. Bien, faites d'un autre avis. Et je comprends bien que ce que je dis est pas facile pour nos amis indiens, puisqu'ils ont créé l'Inde sur l'idée de la résistance non violente. Hein? Alors, à quoi j'ai dit ? Je le sais, mais cette fois-ci, c'est pas possible. Autant je trouve normal que les hindous ne se battent pas au nom de Gandhi, autant je trouve que pour les musulmans, bon, alors, ou bien ils ne se battent pas, ils sont perdus, parce que ceux d'en face, pendant que les intellectuels se feront une bonne conscience en signant des pétitions, les Pakistanais mettront des chars. Donc, il n'y a de sérieuse que la défense du Bengale, intellectuel tant que vous voudrez, appuyer sur le combat. En conséquence, je considère que je suis à votre disposition pour un commandement militaire, étant donné que par hasard, j'ai eu dans ma vie un certain nombre de commandements militaires. Voilà.
À ces inflexions, cette voix caverneuse. Vous entendez, Julia, on entendait derrière une espèce de petite musique. Je ne sais
tapis
pas si elle
sonore,
a été,
ouais.
Ce tapis sonore a été ajouté à l'époque par Europe 1 ou si c'était simplement l'électrophone de derrière le buisson. En tout cas, il y a toujours dans cette éloquence si particulière d'André Malraux, dans les monologues à quoi se résument la plupart des conversations avec lui, il y a toujours ce mélange de solennité un peu étrange et en même temps de créativité verbale. C'est une œuvre d'art, ce discours-là. Ça fait de chacune des interventions de l'ancien ministre un événement, grand ou petit. Vous savez, Georges Pompidou disait de lui qu'il était l'homme qu'on n'interrompt pas et qui s'octroie, ajoutait Pompidou, en solo un conseil des ministres. C'est pas ce qui dérangeait Malraux, effectivement. Il aura été l'interlocuteur magnétique des plus grands dirigeants, dont le président Nixon, qui a tenu à le consulter avant de se rendre en Chine en 72. Il vit sur le mode d'une sorte de conférence ininterrompue, si vous voyez. Je croyais, confiera Nixon, consulter un génie brouillon. Or, j'ai eu devant moi la lumière la plus révélatrice de notre temps. Nous allons revenir dans un instant à Verrières-le-Buisson où se poursuit cet entretien avec Yves Salgue. Tous les deux évoquent maintenant évoque enfin, me direz-vous, l'existence mouvementée de l'aventurier, écrivain, ministre, causeur, la vie épique de celui qu'André Gide avait surnommé le contemporain capital.
Un extrait sur Europe 1 de la 9e symphonie de Beethoven. Restez avec nous dans un instant. Franck Ferrand rend hommage à André Malraux.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
André Malraux disparaissait il y a 35 ans, l'occasion pour Franck de mettre à l'honneur un de nos plus grands auteurs aujourd'hui.
Alors, vous savez, c'est difficile de résumer la vie mouvementée d'André Malraux en quelques mots. Dans quelques instants, en compagnie d'Alexandre Duval-Stalla, nous allons revenir sur un certain nombre d'étapes de l'épopée. J'aimerais bien qu'on s'attarde notamment sur l'enfance et la jeunesse de ce personnage, dont on ne parle quasiment jamais. Puis nous allons nous intéresser évidemment aux chapitres les plus saillants de la légende. Mais à titre de hors-d'œuvre, si vous voulez, laissons à Yves Salgue le soin de brosser à grands traits le paysage de cette existence. En remontant le cours de sa vie, écrit-il, jusqu'à l'étape adolescente, on est saisi par l'audace de cet aventurier précoce. À peine plus vieux qu'un conscrit, le voilà qui s'engage sac au dos dans la jungle khmer et les dédales souterrains d'Angkor comme dans une éternité difficile. Ce Malraux d'Indochine est une sorte d'équivalent du Rimbaud d'Abyssinie, en même temps qu'il fait penser au modèle géant sur lequel il rêve de s'aligner, Laurence d'Arabie. Et c'est vrai que la figure, le personnage de Laurence d'Arabie aura sans cesse hanté André Malraux et lui aura sans doute servi, sinon tout à fait de modèle, mais du moins d'idée de ce que doit être l'aventure. On va y revenir à ça, bien sûr, dans un instant. Paul Claudel, poursuit notre Yves Salgue, Paul Claudel a décelé dans Malraux, je cite, « un métaphysicien manqué qui a du coffre, du nerf, du style, mais que la pestilence et le vice des métropoles dégraderont bientôt ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça aussi, nous allons le voir. Quand dit Malraux, il n'a pas le temps de s'émouvoir, il vient d'ouvrir un pari avec Drieux-La Rochelle, où Malraux sera pris Goncourt à 35 ans, où il se suicidera. Heureusement pour lui, son roman, très ambitieux roman, La Condition humaine, qui est rédigé, nous dira André Malraux, en 60 nuits, La Condition humaine lui vaut le fameux prix Goncourt à l'unanimité des voix et à 32 ans. Ouf, le voilà sauvé. Toute la suite de son œuvre pourrait se résumer dès lors à une sorte de traque de l'absolu. Là, il y a du Laurence d'Arabie, évidemment. La vie apporte à l'œuvre sa matière, de la guerre civile espagnole, qu'il fait dans les rangs des Républicains, à la campagne de France et bientôt à la Résistance, où il est le colonel Berger, et à la brigade Alsace, qu'il ne faut pas oublier non plus pour finir la guerre. Et puis, il y a, et ça aussi nous allons l'aborder dans un instant parce que ça mérite qu'on s'y attarde, il y a ces drames intimes, comme la mort à la guerre de ses deux demi-frères, comme la mort accidentelle de sa maîtresse, la romancière Josette Clotis, en 1944, qui était la mère de deux de ses fils. D'ailleurs, elle lui avait donné ses deux fils Gauthier et Vincent, qui, tout jeunes, à 21 et 17 ans, vont périr à leur tour dans un accident de voiture au printemps 1961. Donc, beaucoup de drames et beaucoup de noirceurs sur ce, comme de gros nuages noirs sur ce paysage, par ailleurs, tellement accidenté. La nuit, cette fois, est presque tombée sur Verrières-le-Buisson, et il faut allumer les lampes dont Louise de Villemorin avait semé le salon bleu. Il est temps, si vous le voulez, de revenir ici à la grande affaire, c'est-à-dire au lien qui s'était tissé entre lui, Malraux, et De Gaulle. Et bien sûr, c'est toujours Yves Salgue qui lui pose la question et lui dit « En supposant que De Gaulle ne vous ait pas appelé ?»«
Il ne m'a pas appelé, » répond Malraux.
« Il m'a gardé. Je l'ai vu une première fois au ministère de la guerre rue Saint-Dominique pendant 40 minutes. Je suis entré du même coup dans la maison du père, lié à son destin. Messieurs, je vous impose Malraux. » Il a voulu m'aider tout de suite. Alors qu'est-ce qui vous a le plus séduit, qu'est-ce qui a le plus séduit le général en vous?
On ne séduisait pas De Gaulle, répond André Malraux. On l'intéressait, et dès lors qu'on l'intéressait, il se préoccupait de vous. N'avez-vous pas écrit vous-même, en mettant l'accent sur la solitude du héros, « De Gaulle n'a pas d'amis ?» C'est vrai qu'il n'avait pas d'amis, pas plus qu'une équipe ou un état-major, pas plus qu'une cour. Mais les élus d'un nouveau compagnonnage, les éléments d'une nouvelle chevalerie, ils n'engageaient pas les hommes sur des rapports de police ou des curriculum vitae d'opérette, ils choisissaient au contact. Le général était un grand affectif, mais la sensibilité n'apparaissait pas sous la rugosité militaire du masque. Son style hautain, hasarde prudemment Salgue. Le général n'était pas haut, il avait de l'altitude, il ne respirait pas au niveau du comptoir. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans l'homme De Gaulle? Alors là, Malraux réfléchit un moment. La majesté de l'intelligence, dit-il, l'aptitude au sacrifice, l'humilité devant la France, le travail, le renoncement, l'attachement aux valeurs sacrées, quoi. La France était donc sa seule maîtresse? Aucun chef dans l'histoire n'aura autant souffert pour un État. Le jugiez-vous démesuré par rapport au pays? Ça n'est pas ça. Le malentendu provenait de l'incapacité d'une certaine minorité française à se hisser à son niveau, alors qu'au Canada ou en Indochine, on ne se serait soulevé d'enthousiasme. « De quel homme avez-vous le plus appris ?» demandit Salgue. Et là, évidemment, la réponse était évidente. Bah, « Du général De Gaulle, bien sûr. » À ce stade, je ne résiste pas à l'idée de vous faire écouter un extrait du plus célèbre discours prononcé par Malraux en présence évidemment du général de Gaulle et j'allais dire en présence de toute la France. Ce discours, nous en avons tous à la mémoire quelques phrases, c'est bien entendu l'accueil qu'André Malraux réserve sur le parvis même du Panthéon à la dépouille de Jean Moulin.
Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Regarde glisser sous les chaînes du Quercy, avec un drapeau fait de mousseline nouée, les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres. Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Pauvre roi supplicié des ombres, regarde ton peuple d'ombre se lever dans la nuit de juin constellé de tortures. Voici le fracas des chars allemands qui remontent vers la Normandie à travers les longues plaintes des bestiaux réveillés. Grâce à toi, les chars n'arriveront pas à temps. Et quand la trouée des alliés commence, regarde, préfet, surgir dans toutes les villes de France les commissaires de la République, sauf lorsqu'on les a tués. Tu as envié comme nous les clochards épiques de Leclerc. Regarde, combattants, tes clochards sortir à quatre pattes de leur maquis de chêne et arrêter avec leurs mains paysannes formées au bazooka l'une des premières divisions cuirassées de l'Empire hitlérien, la division d'Assrache. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit.
La voix vibrante, la voix inouïe d'André Malraux a retenti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, après tout ça ?
La biographie croisée de Charles de Gaulle et d'André Malraux a été composée il y a quelques années par Alexandre Duval-Stalla. L'auteur est avec nous dans ce studio et c'est même lui, pour tout vous dire, qui a su attirer mon attention sur l'anniversaire que nous célébrons aujourd'hui. Nous allons donc revenir en sa compagnie dans quelques instants sur l'épique existence d'André Malraux.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
On vous retrouve Franck avec votre invité sur Europe 1, Alexandre Duval-Stalla, qui est avocat au barreau de Paris, écrivain, auteur notamment d'André Malraux, Charles de Gaulle, une histoire de légende chez Gallimard.
Alexandre Duval-Stalla, dont c'est un grand jour, puisque ce soir même, il se verra remettre le prix Pierre Laffut, qui avant lui a récompensé des talents aussi divers que ceux d'Alain Decaux, de Dominique de Villepin, de Simone Berthière, de Jean-Paul Bled et j'en passe. Ça, c'est un bel hommage et toutes nos félicitations, cher Alexandre. Merci d'être des nôtres. Évidemment, le prix vous est remis pour votre biographie croisée de Monet et Clémenceau. On va pas parler de Clémenceau ensemble aujourd'hui, on va essayer de rester courtois. Depuis la diffusion de cette émission sur France 3, ça fait beaucoup de
vagues,
on va dire. Mais bon, très bien. On va parler d'un sujet plus consensuel entre nous, c'est-à-dire Malraux. Et j'aimerais que vous nous disiez, parce que c'est un aspect qu'on aborde quasiment jamais, d'où il vient ce Malraux.
Alors, André Malraux dit de manière assez étonnante, tous les écrivains aiment leur enfance, moi je déteste la mienne. Et effectivement, toute son enfance a été une sorte de frustration personnelle, où il n'a pas su trouver la place, en tout cas il aurait voulu naître dans un autre milieu, et son milieu, c'est effectivement un milieu de petits commerçants, à Bondy. Ses parents vont se séparer très tôt, son père est assez farfelu et fantasque, et il a d'ailleurs une très grande admiration pour lui, et puis sa mère qui souffre de la perte d'un premier enfant, puis de ce divorce, est assez maladroite avec André Malraux, et c'est Clara Malraux qui en parle. Elle écrit sa mère, épouse, par je ne sais quel sadisme issu de ses déceptions conjugales et justifié par l'idée qu'on se faisait en ce temps de l'éducation, ne cessait de lui répéter qu'il était laid, ne fût-ce que parce que ses oreilles décollées déparaient son visage.
C'est incroyable, hein, ça.
Et c'est vrai que il n'y a pas dans l'ensemble de ses romans un mot sur sa mère.
Oui. Il y a une sorte de presque de malédiction qui pèse sur le petit Malraux et dont il essaiera constamment de s'arracher en quelque sorte.
Je crois que très tôt, en fait, il a vécu avec cette idée de la mort. D'une part parce que son grand-père alors il dira c'est la mort d'un Viking puisque il se suicidera avec un coup de hache dans la tête. Son père également se suicidera un peu après, victime de déboires financiers. Et cette vie va être effectivement, tout au long d'ailleurs de sa vie, tracée d'un certain nombre de morts qui seront pour lui des tragédies, et dont la plus grande sans doute a été Josette Clotis d'abord, et puis les enfants qu'il avait eus avec Josette Clotis en 61.
Alors avant de fuir dans les combats, de fuir dans la littérature, puis un jour dans la haute politique, André Malraux a commencé par fuir tout simplement dans la fête des années folles. Vous nous racontez qu'au moment où il s'éloigne de Bondy, il loue un appartement meublé à Montmartre, je cite Alexandre Duval-Stalla, appartement où il héberge son ami Louis Chevasson, puis il s'installe à l'hôtel Lutetia, dans une chambre aux étages supérieurs, avant de prendre une garçonnière rue Brunel dans le 17e arrondissement près de l'Étoile. Sa grand-mère et son père lui versent régulièrement de l'argent. Depuis quelque temps, il a fait la connaissance de Georges Gabory, poète à 16 heures et grand connaisseur de la nuit parisienne. Ils deviennent inséparables, André Malraux découvre la vie parisienne et la vie en vrai dandy. Il porte des capes doublées de soie, des gants de peau et des roses à la boutonnière. Il fréquente aussi bien les meilleurs restaurants que les endroits louches. Nous étions jeunes, André Malraux et moi, séduits par l'étalage de la dépravation réelle ou feinte, en regardant onduler le barman qui dansait nu, vision d'art. Devant le client libéral, on entendait glousser Zigouigoui, Passe-Lacet et Manon. On a du mal à imaginer André Malraux dans la peau d'un jeune noceur.
C'est un peu les années 20, la suite de la guerre. Il y a d'ailleurs un très beau roman, Le Tour du Malheur, de Joseph Kessel, qui raconte cette période de manière très très forte. Hein. Je pense que après la guerre, ils ont envie de vivre vraiment et intensément. Et c'est cette découverte de Paris, puisqu'il y aura effectivement certains bars plus ou moins sérieux, mais il y aura aussi les théâtres, les musées, les bibliothèques. Et vraiment, il va avoir soif de découvrir. Et d'ailleurs, ce qui est assez incroyable chez lui, c'est qu'il n'a pas fait d'études, et pourtant, même le général de Gaulle, et Dieu sait si le général de Gaulle avait fait des études, était bluffé par les connaissances d'André Malraux, et il lisait tout, il retenait tout. C'est assez incroyable. D'ailleurs, c'est dans ses lectures qu'il découvrira un certain nombre de choses qui l'emmènera dans certaines aventures.
Invraisemblable autodidacte, avec peut-être parfois une culture... il disait, on connaît cette fameuse phrase, hein, la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. La sienne était parfois peut-être un peu lacunaire, ce qui le poussait à combler un peu les manques ou les lacunes. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai souvent entendu d'anciens compagnon du général de Gaulle, à l'époque où je les interviewais, dire « Oh, Malraux !» Et tout de suite, le mot qui vient tout de suite, il était mythomane, il racontait des histoires, etc. C'est vrai, cette accusation?
Il disait « Mes mensonges deviennent des réalités
».
Je pense que tout est résumé dans cette phrase. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses, il en a rêvé beaucoup d'autres, et il en a réalisé un certain nombre.
Il a beaucoup voyagé, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est assez incroyable, d'ailleurs dans les années 20 avec donc Clara Malraux, ils vont faire le tour du monde, partir sur tous les continents, visiter...
Oui, vous le racontez, je vous cite.
D'Asie, d'Amérique, c'est assez incroyable.
En mai 31, Clara et lui repartent pour Ispahan, la Perse et l'Afghanistan, en passant par Moscou et Tashkent, capitale de l'Ouzbékistan. Grâce au mandat que Gaston Gallimard envoie à Malraux, ils prolongent leur voyage, un vrai tour du monde. Après Kaboul, ils franchissent le col de Khyber vers l'Inde. Ils passent Peshawar, Srinagar, Delhi, Benares et Calcutta. Ils découvrent la Birmanie et Singapour, passent par Hong Kong, la Chine continentale et le Japon. Ensuite, ils traversent l'Amérique du Nord en passant par Vancouver, Chicago, New York. C'est incroyable. Alors, il rapporte toutes sortes de souvenirs et d'œuvres d'art de ses voyages. André Malraux, il y a un petit côté trafiquant d'art aussi pendant un moment.
C'est-à-dire qu'à un moment, il avait vécu surtout de la dot de sa femme, ce qui est assez utile, et il avait investi sur les mines d'or au Mexique, et puis un jour, revenant de ses voyages, il réalise qu'ils sont ruinés. Et lorsque Clara, un peu angoissée, lui demande « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» et il lui répond « Vous pensez pas que je vais travailler quand même ?» Il a donc 22 ans. Et il a lu au musée Guimet un article sur un temple qui se trouve... au Cambodge, qui s'appelle le temple de Bantesray, et il va monter une sorte de casse archéologique à une époque où la législation sur les œuvres d'art et les monuments était encore très très lacunaire.
C'est ce qui donnera la trame même de ce sublime roman auquel je faisais tout à l'heure allusion, La Voie Royale.
Tout à fait, on voit ces deux personnages assez très très français, très occidental, montés sur deux grands buffles, traversant la savane avec deux amis.
On est dans cette savane indo-chinoise, hein,
voilà.
Je précisais.
Coupant les différents arbres qui les empêchent de franchir, surveillés, parce qu'il ne faut pas penser qu'ils n'étaient pas surveillés, c'est là un peu le sel aussi de cette histoire-là, c'est qu'ils ont été surveillés tout le long de cette expédition et ils se sont fait prendre bien évidemment après, mais c'était un peu un coup
alors,
monté.
Alors il y a Perkin, l'aventurier, et puis il y a celui qui est quasiment Malraux lui-même dans cette affaire. Et qui est avant tout un amoureux de l'art. Ce sera quand même la grande affaire de sa vie.
Alors, d'ailleurs, ce sera paradoxal parce qu'effectivement, les rumeurs diront, lorsqu'il sera ministre de la Culture et puis ensuite sans écrit sur l'art, essaieront de lui reprocher toujours ce casse archéologique de quand il avait 22 ans, mais on n'est pas sérieux à 22 ans. Mais il a eu, je crois qu'il a vu qu'à travers l'art, finalement, la mort qui l'avait tant touché permettait d'échapper à cette mort et de toucher une certaine immortalité. Et il a toujours trouvé dans les œuvres d'art cette manière de prendre conscience de soi et finalement de transfigurer le destin des hommes qui est la mort et de vivre à travers. Et donc vous disiez très justement que parfois ses connaissances étaient lacunaires, mais en fait sa prodigieuse créativité, c'était de mélanger des choses qui n'étaient pas justement très universitaires et très bornées, mais au contraire de mettre en lien différentes choses. Et c'est pour ça qu'il a réussi à mettre en lien à la fois la culture indienne, la culture française, des statues grecques, des statues religieuses. Et c'est ça qui faisait la force de cette formidable pensée sur ce qu'est un homme et comment on prend conscience de soi.
La condition humaine. Alors, le combattant, le témoin des guerres de son temps, évidemment le résistant, et puis le compagnon du général de Gaulle. Nous venons à tout cela dans un instant.
Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Je t'honorerai.
terre, voir les peuples en révolution, et je vous dirai leur misère, leurs combats et leurs illusions. La mer de Chine est une ardoise, je veux y écrire mon nom. La terre d'Espagne est une femme, et je veux l'aimer sans raison.
Julien Clerc sur Europe 1, qui donnerait la peau et les os pour être un jour André Malraux.
C'est vous dire la dimension mythique du personnage.
L'ampleur du personnage.
Les deux modèles, là, c'est Greta Garbo et André Malraux. On a quand même l'impression qu'il a exercé sur une génération entière une sorte de fascination. Et la génération en question n'était pas forcément celle de ses compagnons d'âge, mais plutôt la suivante, en fait. Il y a une école André Malraux, Alexandre Duval-Stalla.
Je crois qu'il y a une fascination pour le seul révolutionnaire qui a finalement réussi, parce que pendant les années 30, c'était toute la gauche française et européenne avait pour André Malraux les yeux de chimène. Il était au premier rang pour défendre les valeurs de la République. Il a combattu le fascisme très très tôt. La condition humaine était une formidable propagande, au-delà d'être une œuvre magistrale pour justement cette liberté tant défendue contre le fascisme, alors, contre le nazisme.
Vous écrivez, je vous cite beaucoup dans cette émission, mais je cite les gens que l'on récompense.
De qualité.
Vous écrivez à propos de cette guerre civile espagnole. André Malraux propose immédiatement de se rendre sur place pour évaluer la situation. Le gouvernement espagnol a fait une demande d'aide militaire à la France. Dès le 21, André Malraux débarque à Barcelone avec Clara. Ils sont accueillis par José Bergamín. Sur place, tous confirment que le point faible de la défense républicaine est l'absence d'aviation qui permettrait de contrebalancer l'avantage au sol des blindés des franquistes. Nommé au grade de coronel par le gouvernement espagnol, André Malraux obtient le droit de former et de commander une escadrille de combattants étrangers. Il donne à cette escadrille le nom d'Espagna. Pendant 7 mois, le colonel André Malraux va combattre. Bien qu'il soit incapable de piloter un avion, il est mitrailleur. En combattant avec les républicains et les communistes espagnols, nous défendions des valeurs que nous tenions, que je tiens, écrira-t-il, pour universelles. Il y a cette quête d'absolu et ce souci de toujours se battre au nom d'une universalité chez le personnage.
Oui, et lorsqu'il apprend d'ailleurs le déclenchement de la guerre d'Espagne, il est à l'opéra et il est dans la même loge que Léo Lagrange. Mmh. Léo Lagrange, c'est le seul ministre de la République
du
à être tué du Front Populaire et à être tué sur un champ de bataille, puisqu'il mourra dans le début des années 1940, au moment de la campagne de France. Et Malraux, face au petit à petit les... Vous savez, c'est Munich, c'est-à-dire qu'on va décider qu'il n'y aura finalement pas d'intervention. Avant que le Conseil des ministres, présidé par Léon Blum, décide la non-intervention, son secrétaire, Jules Mock, lui apporte 13 petits morceaux de papier qui sont autant d'avions affrétés par André Malraux qui vont partir pour l'Espagne. Et ce n'est qu'à la fin du 13e petit bout de papier que la séance du Conseil des ministres sera levée et que sera signé définitivement ce contrat.
L'interdiction, en fait,
voilà.
Oui. André Malraux a donc joué un rôle, on peut dire, important dans cette affaire. Il a bien mérité la gloire que ça lui a apportée.
Il a bien mérité la gloire que ça a apportée. D'une part, si bien évidemment il n'a pas arrêté, je crois que personne n'en doute, les forces franquistes, en tout cas il les a retardées, ça c'est sûr. Et surtout, il a été une formidable personne au service de la République espagnole, par l'espoir, par son film aussi, Sierra de Teruel, et il va montrer que effectivement il y avait un combat très juste, très grand, très noble. Et lorsqu'il sera à Barcelone notamment, je veux dire, tout le monde a couru autour de lui. C'était vraiment, il a occupé une place essentielle et assez exceptionnelle.
Alors un petit peu plus tard, il va faire la campagne de France à bord d'un blindé. Et ce qu'il faut aborder, la partie très, très importante, c'est sa résistance.
Alors, d'abord, il a eu une difficulté pour faire effectivement la campagne de France en 40, c'est qu'il avait été réformé et qu'il a eu des difficultés pour réintégrer l'armée, mais il a effectivement intégré une compagnie de chars. Alors, on se dit toujours, bon, bah, effectivement, c'est un résistant de la dernière heure. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. D'abord, il avait été très très, très déçu par la, finalement, par la guerre d'Espagne, parce qu'il avait bien vu que les moyens n'étaient pas à la hauteur de leur combat. Et il a toujours dit, notamment à Roger Stéphane, à Sartre qui était venu le voir, pas de moyens, pas de chars, j'y vais pas. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, c'est qu'il avait aussi Josette Clotis sur le dos, d'une certaine manière, et qu'elle ne voulait pas qu'il aille jouer, qui était sa maîtresse, avec qui il vivait, et qu'il ne voulait pas qu'il aille jouer les révolutionnaires et qu'il se fasse tuer. Elle voulait d'abord qu'il l'épouse. Et ce qu'il n'a pas fait, parce qu'il a considéré que Clara, qui était de confession juive, ne devait pas courir ce risque et notamment être divorcée de lui. Et puis il va arriver très très tardivement, mais à un moment très particulier qui est fin 43, début 44, où ses frères sont rentrés dans la résistance, via d'ailleurs les services secrets britanniques, et il va trouver les moyens de s'engager réellement et d'avoir des troupes avec lui. Il va monter d'ailleurs à Paris avec une des personnes qui formera la brigade d'Alsace-Lorraine. Il reviendra et il dit « j'ai été nommé par Paris chef de la région », ce qui est effectivement son côté des mensonges qui deviennent des réalités. Et il donc décidera de monter cette brigade Alsace-Lorraine. Ils remonteront jusqu'à Strasbourg, ils libéreront Strasbourg avec les forces américaines, et donc il a d'une certaine manière rattrapé un départ un peu plus lent que prévu.
La rencontre avec le général de Gaulle, après un parcours comme celui que vous venez de décrire, est tout de même assez improbable, disons-le. C'est quand même un homme de gauche qui s'est illustré dans la guerre civile espagnole dans les rangs républicains, qui est arrivé un peu tard dans la résistance, qui est auprès de Leclerc dans la dernière phase de la guerre. Que vient-il faire chez de Gaulle, si je puis dire ?
Alors, on réalise pas, en fait, l'isolement dans lequel se trouve le général de Gaulle en 44 et en 45, lorsque Paris est libéré. Il y a, entre les communistes et nous, disait André Malraux, rien. Et c'est vrai que le général de Gaulle est tout seul pour garantir l'indépendance de l'État, et les communistes qui se réclament d'une guerre et d'un parti de 175 000 fusillés. Et donc, le général de Gaulle est seul face aux communistes, et avec le danger dont on apprendra par la suite, avec tout l'Est qui deviendra communiste. Et dans cette affaire, André Malraux va au congrès des forces de résistance et il dit « Je ne veux pas que toutes les forces de la résistance passent sous le drapeau communiste, mais qu'elles restent indépendantes. » Et c'est ça qui permettra justement cette rencontre avec le général de Gaulle. Alors non pas qu'il ait besoin d'une caution de gauche, il dira « Je n'ai pas besoin de caution de gauche, j'ai fait les nationalisations, pas pour la droite, pour la gauche, mais je l'ai faite pour la France. » Et Malraux sera finalement le héros, pas le héros avec OS, mais le héros AUT. AUT.
Un héros qui est devenu un peu la voix du gaullisme sur la fin, bien entendu. Alors j'aurais bien aimé, en tout cas en ce qui me concerne, évoquer son rôle au ministère des Affaires culturelles, grand ministre de la Culture, quand même Malraux, fondateur des Maisons de la Culture, etc. Bon, ce sera pour une autre fois. J'aurais aimé raconter également un certain nombre de rencontres. J'ai parlé de Nixon tout à l'heure, vous me souffliez, et Jackie Kennedy.
Jackie Kennedy a été fascinée par André Malraux. Et lorsqu'elle va visiter le Grand Louvre, qui a été donc la pyramide du Louvre, se trouve là Émile Biasini, qui est un ancien collaborateur du général de Gaulle, et qui dira, lorsque je lui ai parlé d'André Malraux, cette femme avait dans les yeux des étoiles incroyables qu'aucun bijou au monde n'a pu...
Vous vous rendez compte, mettre des étoiles dans les yeux de Jackie Kennedy, c'est quand même pas donné à n'importe qui. André Malraux, Charles de Gaulle, une histoire de légende, c'est votre biographie croisée aux éditions Gallimard, collection L'Infini NRF s'il vous plaît. Et puis Claude Monet, Georges Clémenceau, une histoire de caractère, c'est le livre qui ce soir va recevoir le prix Pierre Laffut, c'est également aux éditions Gallimard. Merci beaucoup Alexandre Duval-Stalla. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment les couples qui ont passé 50 ans, 60 ans, c'est-à-dire qui ont 20 ou 30 ans de mariage ensemble, comment font-ils pour conserver ces fameuses étoiles d'amour, ces étoiles amoureuses? Comment est-ce qu'on passe le cap quand, au moment de la retraite, eh bien, on a une promesse de tête-à-tête pendant 20 ans encore avec le même conjoint?
Mon Dieu.
Ça nous intéresse, c'est possible, l'amour peut durer vraiment longtemps et on vous donne les clés grâce aux experts. Nous attendons bien sûr vos questions au 39-21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr.
Merci beaucoup Elena. À demain, Julien.
Vous ne croyez pas, Franck.
L'amour dure plus de 3 ans. À demain, Franck, sur Europe 1.